avec Jésus sur la montagne, autour du sermon sur la montagne. Quatrième semaine, vous voyez les quatre affiches là, enfin il y en a cinq, mais l'une c'est le programme, et puis il y a les quatre affiches. Quatrième semaine, jour 22, dans nos lectures quotidiennes, donc on est à peu près à mi-chemin. On s'accroche. J'aurais voulu apporter mes crampons, mais ils sont dans les Pyrénées, ou la corde pour montrer qu'on est encordés, là, on est ensemble dans cette randonnée. Un discours, un sermon sur la montagne, ou plutôt sur une colline, prononcé par Jésus et repris par Matthieu dans son évangile, entre les chapitres 5 et 7, et comme dit la première phrase du chapitre 5, les disciples et les foules se rassemblèrent, et Jésus leur adressa ce sermon ou ce séminaire. Et donc, dans cette foule, il y a des disciples, il y a, tout comme dans les foules, les convaincus de la première heure, ou les curieux, ou ceux qui ne demandent qu'à être convaincus, ceux qui observent de loin, des disciples, ou pas encore tout à fait des disciples, donc une foule hétérogène, un peu comme nous. On n'est pas tous au même point. Et à cette bande d'auditeurs un peu quelconque, Jésus va prononcer un discours, un sermon qui est resté dans les mémoires. Alors, il nous a parlé de bonheur, les béatitudes ou une certaine idée de bonheur, première semaine qu'on a vue ensemble, soit dans les groupes de maison, soit dans notre lecture quotidienne, soit lors des prédications, lors du culte du dimanche. Et puis, il nous a invités aussi à être sel et lumière. Et puis, encore plus loin, il nous a appris à prier avec le Notre Père. Alors, on va se dire, c'est normal pour une personne religieuse comme Jésus. Mais aujourd'hui, et un peu plus loin, il va nous parler d'un autre sujet. Et on va lire ensemble ce qu'il nous dit, Jésus, dans son sermon sur la montagne. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire, avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements ? Voyez ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, en fait, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet ? Observez les lys sauvages, ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah, votre foi est bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous ?» ou « Que boirons-nous » ou « Avec quoi nous habillerons-nous » Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse, mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du royaume de Dieu et de tout ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quand Jésus dans son sermon nous parle de quoi ? De l'inquiétude. Ah, il aurait pu nous parler de plein d'autres choses. Mais il a choisi de nous parler de l'inquiétude. Et quatre fois dans le texte, j'ai oublié de noter les références, mais apparaît cette phrase, quatre mots, « Ne vous inquiétez pas ». Ne vous inquiétez pas, oui, il y en a quatre. Quatre fois, en l'espace de quelques versets, en l'espace de quelques minutes, dans son sermon sur la montagne. Comme si l'inquiétude nous concernait. Comme si c'était un sujet important. Et ces quelques mots, « Ne vous inquiétez pas », vont résonner en nous de manière différente selon que nous soyons des inquiets invétérés ou un petit peu moins. Alors, mais il faut savoir que l'inquiétude sévit dans nos contrées, et en particulier en France, dans une étude intitulée « Les réalités sociales françaises par rapport à nos voisins européens », il apparaîtrait que les Français seraient inquiets, et cela plus que les autres, plus que nos voisins européens. 76% des Français pensent que la vie de leurs enfants sera plus difficile que la leur. Donc ils s'inquiètent, contre 64% d'Européens, 10% en plus. La moyenne des Français par rapport à la moyenne des Européens s'inquiètent pour l'avenir de leurs enfants. 86% des Français pensent qu'il peut arriver à n'importe qui de tomber dans la pauvreté au cours de sa vie. On a peur, 86% contre 62% d'Européens. C'est intéressant. Nous, les Français, serions plus inquiets quant à l'avenir par rapport aux nos voisins européens. Même si la vérité ne se trouve pas toujours dans les sondages, l'inquiétude nous concerne. Et Jésus nous en parle, et il nous en parle dans ce sermon sur la montagne que nous parcourons depuis 3 semaines déjà. Et il en parle à ces Galiléens qui sont autour de lui, cette foule hétérogène dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on aurait pu croire qu'à l'époque, ces gens-là, un peu frustres, n'avaient pas tous les sujets d'inquiétude que nous avons. Il n'y avait pas de contrôle URSSAF, il n'y avait pas d'impôts prélevés à la source, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat, il n'y a pas de plastique dans la mer, il n'y a pas de Parcoursup, il n'y a pas de caisse de retraite. Alors pourquoi s'inquiéter? Mais il semble qu'ils s'inquiètent, à l'époque aussi. Alors, il faut se rappeler aussi, et je l'ai lu cette semaine, que autour de Jésus, ces personnes qui se lassent, ces Galiléens, sont des paysans ou des artisans. Beaucoup sont des journaliers qui travaillent au jour le jour et qui sont payés le jour, sans savoir si demain, ils auront un salaire ou un travail. Il faut savoir que à l'époque, la médecine est rudimentaire, que les maladies étaient souvent invalidantes, que les épidémies décimaient des villages entiers, que l'espérance de vie ne dépassait pas 40 ans, que les enfants ont peu de chances d'arriver à l'âge adulte. Et oui, à l'époque aussi, ils ont des raisons de s'inquiéter, comme nous en avons également. Même si les conditions de vie ont changé, objectivement, on est dans des meilleures conditions de vie, mais bizarrement, l'inquiétude n'a pas diminué. Il semble que l'inquiétude fasse partie de notre humanité. Une donnée, lisais-je aussi, une donnée existentielle fondamentale. Ça fait partie de l'humain qui témoigne de notre sentiment de fragilité et de l'aveu aussi d'une certaine impuissance devant les circonstances de la vie. L'inquiétude est un fait humain et Jésus va rejoindre les humains, va rejoindre notre humanité dans son sermon sur la montagne, notre quotidien d'hommes et de femmes inquiets. Jésus nous parle là où nous sommes, parce que là où nous sommes, il y est aussi. Venez tel que vous êtes, disait une publicité pour un marchand de sandwichs chauds. Jésus nous dit, venez tel que vous êtes avec votre inquiétude. Et on va en parler de cette inquiétude. Jésus nous en parle parce que il sait que l'inquiétude est très gourmande en termes d'occupation du terrain. Et dans le Nouveau Testament, le verbe s'inquiéter donne l'idée d'un homme qui aurait l'esprit complètement accaparé par quelque chose, l'esprit, une prise de tête. L'inquiétude comme une prise de tête qui vous prend la tête et qui vous fait passer peut-être à côté de quelque chose qui serait meilleur. Proverbe 12, verset 25, parle d'accablement. Les soucis, l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'accable, l'accablement. Et plus tard, dans une parabole, dans Matthieu 13, la parabole du semeur, on parle de ces soucis qui étouffent la personne, qui étouffent la petite plante qui ne demanderait qu'à grandir. Mais les soucis l'étouffent, l'inquiétude qui étouffe, qui accable, qui empêche la croissance, qui empêche même la vie, qui prend la tête et qui prend le cœur et qui accapare et qui nous préoccupe, voilà l'inquiétude dont Jésus nous parle. Y aurait-il un inquiet, une inquiète dans la salle? Y aurait-il des personnes qui ont le sentiment de passer à côté de quelque chose à cause de cette inquiétude qui étouffe, qui accable? Jésus va nous en parler et il va le faire de manière très simple. Il va avancer d'abord deux arguments pour nous prouver que l'inquiétude, qu'on n'est pas condamné à vivre dans l'inquiétude. D'abord, Jésus va nous dire que l'inquiétude, c'est d'abord manquer de bon sens. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est l'avant-bras, 50 centimètres, si on a un avant-bras un peu long. Une coudée, qui peut, et la semeur a traduit, qui peut ajouter quelques instants à la durée de sa vie? Et c'est une question rhétorique, la réponse est personne. Personne ne rallonge sa vie en s'inquiétant. Au contraire, il aurait tendance à la raccourcir. Cela tombe sous le sens, l'inquiétude ne fait pas avancer les choses. Alors, une autre enquête, un groupe de recherche s'est amusé à étudier les soucis d'un homme d'affaires lambda. Et on s'est aperçu que 40% de ses soucis concernaient des choses qui ne se réaliseront jamais. Que 30% concernaient des décisions qu'il ne pouvait de toute façon pas prendre maintenant. 10% étaient en rapport avec des choses pour lesquelles il ne pouvait rien faire, et il restait simplement 8% de soucis légitimes, ça veut dire 92% de nos soucis seraient inutiles, voire dangereux. 92% de nos soucis ne servent à rien. 40% des choses, là, concernent des événements qui ne se produiront jamais. On s'inquiète pour rien. Et certains disent, j'avais bien aimé cette phrase, donc dans cette question de bon sens, le souci c'est l'intérêt payé en avance pour des problèmes qui viennent rarement. Et même Albert Einstein disait, je ne pense jamais au futur, il viendra bien assez tôt. Et je pense qu'il s'inspire de ce que Jésus disait, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain s'inquiétera de lui-même. Et je crois que c'est Einstein qui s'est inspiré de Jésus et non le contraire. L'inquiétude ne va pas dans le bon sens. Et j'aime que la Bible, que Jésus fasse appel au bon sens. Ça n'a pas de sens, les amis, de s'inquiéter. Et puis il aura ces métaphores avec les oiseaux du ciel, avec le lys des champs, avec cet argument rabbinique à l'époque. Combien plus forte raison, si Dieu habille les lys des champs, à combien plus forte raison il va vous habiller? Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, a fortiori, vous qui avez beaucoup plus de valeur que les oiseaux du ciel, il va vous nourrir, il va prendre soin de vous. Alors pourquoi s'inquiéter? Et puis, avec ces métaphores, on embraye sur un second argument. Il a argumenté, Jésus, l'inquiétude serait un manque de bon sens, et puis l'inquiétude, deuxième argument, serait un manque de foi. Ces choses-là, c'est-à-dire ces soucis de la vie, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça les païens, c'est pas un terme péjoratif, mais les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui les recherchent et qui s'en inquiètent, mais vous avez un Père qui est aux cieux et qui sait que vous en avez besoin. Il le sait. Vous avez un Père qui sait. Mais beaucoup ne savent pas qu'il sait. Et ils ne lui font pas confiance pour l'avenir. C'est ce que Jésus dit à propos d'Élise Deschamps, encore une fois, « Dieu ne vous vêtira-t-il pas, à combien plus forte raison, gens de peu de foi ?» Comme pour la tempête, hein. Vous manquez de foi, avec le mot, l'adjectif « oligos », ce n'est pas des oligo-éléments, mais c'est des oligo-croyants, des petits croyants. Parce que l'inquiétude pose la question de la foi, ou de la relation avec Dieu, ou de la confiance dont nous parlait Paul, ou on pourrait parler d'autre chose. On pourrait parler de la foi, la confiance, ou du projet de vie. L'inquiétude pose la question du projet de vie. Quel est mon projet de vie? Est-ce que mon projet de vie est d'avoir tout ce que j'estime avoir mérité et à me débrouiller pour l'avoir? Où est-il ce projet de vie que je regarde un peu plus loin devant moi, que je regarde à Dieu, qui est mon Père, et qui sait que nous en avons besoin, et qui sait aussi ce dont nous avons besoin. Et tout est là. L'inquiétude nous pose la question de ce projet de vie, et c'est peut-être pour cela que Jésus nous en parle dans son sermon sur la montagne, parce que l'inquiétude dépasse le simple domaine de la santé publique et de l'ulcère à l'estomac provoqué par l'inquiétude. Non, l'inquiétude pose la question de la foi et du projet de vie, et nous place dans le domaine spirituel, ou le problème de la vie. Et ce que Jésus nous dit, que c'est si ton projet de vie, c'est d'atteindre la reconnaissance sociale, la notoriété. Si ton projet de vie, c'est l'exaltation du corps. Si ton projet de vie, c'est la santé jusqu'à 100 ans, la retraite sous les cocotiers. Si ton projet de vie, c'est d'avoir 100 000 followers sur Instagram ou je sais pas quoi. Alors oui, si le projet de vie, c'est ça, alors oui, il y a de quoi s'inquiéter. On devrait même s'inquiéter, parce qu'il y a plein de choses qui pourraient arriver qui nous empêcheraient d'atteindre ce nirvana publicitaire ou ce nirvana des réseaux sociaux. Mais si, par contre, je choisis, nous choisissons, tu choisis, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire, comme le traduit le Sommeur aussi, ce qui est juste à ses yeux. Si tu fais du royaume de Dieu ta préoccupation première, vous vous souvenez la prise de tête de l'inquiétude, le royaume de Dieu ta préoccupation première, alors les choses vont changer. Si tu recherches les valeurs du royaume dont Jésus parle dans son sermon sur la montagne, si tu recherches à être un artisan de paix dans ce monde, si tu cherches à manifester de la bonté, si tu cherches à manifester de la douceur dans ce monde de brut. Je parle des béatitudes, hein, vous l'avez. Si tu recherches à avoir un cœur pur dans ce monde, si tu cherches aussi à être du sel dans ce monde qui en manque de saveur, si tu cherches à être une lumière dans ce monde qui est bien enténébré et plein de ténèbres, alors on n'aura plus de raison de s'inquiéter pour le reste. Toutes ces choses vous seront données par-dessus, parce que ces choses qui nous inquiètent auront perdu justement de leur capacité anxiogène, parce que mon projet de vie n'est pas d'avoir 100 000 followers, mais de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu, nous ne serons pas préoccupés par le reste. Fais du royaume de Dieu ta préoccupation première. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Quand on est dans le projet de Dieu, l'inquiétude n'est pas à l'ordre du jour, ne devrait pas être à l'ordre du jour. Ça me fait penser à ces enfants. En tout cas, quand on avait les enfants, jeunes enfants à Bruxelles, qui avaient trouvé la bonne parade pour ne pas prêter leurs jouets à d'autres enfants qui le leur demandent, et ils disent « je peux pas de mon papa ». Mon papa m'a dit que je pouvais pas donner mon jouet. C'était pas toujours vrai, mais et les autres enfants ne pouvaient rien dire là contre, comme on disait en Belgique à l'époque. Et pour l'inquiétude, qui parfois s'invitent pour jouer avec nous, on devrait pouvoir dire « je ne peux pas de mon papa ». Je ne peux pas m'inquiéter de mon Père. C'est défendu de la part de mon Père qui est dans les cieux. Il ne veut pas que ma vie soit rongée par l'inquiétude. Il ne veut pas que je passe à côté de la vie qu'il veut me donner. Alors, à ce moment-là, du séminaire, je vois, ou du séminaire ou du sermon sur la montagne, j'imagine bien un doigt ou plusieurs qui se lèvent dans la foule. Monsieur Jésus, est-ce que je peux considérer vos paroles comme une garantie? Que rien ne va m'arriver si je peux vous faire confiance. Hein? Vous semblez parler comme d'une garantie. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses, ça veut bien dire tout. Et tout ce dont je vais avoir besoin. Alors je vais... pas répondre à la place de Jésus, mais quand même, mais continuer à citer le verset 34, et il parle de la peine, où il parle de la peine. À chaque jour suffit sa peine. Jésus parle de peine. Malgré tout, dans celui, pour celui et celle qui fait confiance en Dieu, il y a quand même de la peine, il y a quand même de la douleur, il y a quand même du manque. Il n'est pas question dans la lutte contre l'inquiétude de nier tout cela. Et on le nie pas, hein, ce matin. Il y a de la peine, il y a des douleurs, et on partage ta douleur, Daniel, pour ce qui est arrivé à ta fille. Il va y en avoir des peines, des souffrances, des maladies incurables, des déceptions, des disparitions, des persécutions, des pleurs. Il le dit, Jésus, il y a de la peine, mais elle doit être vécue dans le présent. À chaque jour, ça suffit. Et que Dieu te donnera aujourd'hui la force dont tu as besoin pour vivre cette journée avec lui, en regardant à lui et en vivant résolument les valeurs du royaume. Et plus qu'une formule magique, toutes ces choses vous seront données par-dessus, il s'agit d'une promesse. Une promesse, et j'aime ce verset d'Ésaïe 41:13, « Sois sans crainte, car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je suis l'Éternel, ton Dieu qui saisit ta main à l'instant T, au moment présent, je suis là. Pas une garantie que rien ne va vous arriver, qu'il n'y aura pas des manques, mais une promesse qu'il sera là. Alors cela peut-être paraît un peu simple, un peu trop facile. Mais non, ça reste un défi. Chasser le naturel, et il revient au galop, et je sais de quoi je parle en matière d'inquiétude. Je suis un inquiet, ma mère était très inquiète, ma grand-mère était très inquiète, et je parle du côté français de ma famille. Je me souviens que ma grand-mère, à Saint-Étienne, quand j'allais lui rendre visite de Fontainebleau avec mes parents, j'avais 7-8 ans, elle me tenait la main pour traverser la route, mais elle m'écrasait la main. Elle avait tellement peur, une inquiète pour tout, et ma mère a hérité. Alors je ne sais pas s'il y a une question d'hérité ou de gêne dans l'inquiétude, mais j'ai hérité de cela. Mais dans ma famille, et ma mère a progressé à ce niveau-là, et je crois avoir progressé en laissant mon inquiétude devant Dieu, et il y a quelques pensées qui m'ont aidé contre l'inquiétude, et je vous invite à les parcourir avec moi et les voir non pas comme des formules ou comme une recette infaillible, mais des suggestions. Pour lutter contre l'inquiétude, redire son projet de vie. Pourquoi je me bats dans ce monde? Quel est le moteur de ma vie? Qu'est-ce qui me motive? Et si ce projet, c'est le royaume de Dieu premièrement, alors le redire encore une fois. Et mon projet, c'est le royaume. Yvonne a fait ses études, son université aux États-Unis, une université chrétienne, et son logo, c'était « For Christ and His Kingdom », pour Christ et son royaume. Et moi, j'avais 17 ans quand elle est partie en Amérique. Je trouvais ça magnifique. Mon premier projet, pour Christ et son royaume, et le dire jour après jour, parce que jour après jour, on perd le fil. Parce qu'il y a le chant des sirènes, parce que l'inquiétude gagne, il faut pouvoir redire, dire à Dieu qu'on est avec lui dans son royaume, et pour ce royaume, redites-le quand vous êtes sur votre vélo d'intérieur, quand vous vous brossez les dents, quand vous faites vos courses, quand vous avez une réunion parent-prof au collège, quand vous ouvrez votre avis d'imposition, redire son projet de vie pour effectuer un décentrage par rapport à soi-même et par rapport à cette inquiétude qui nous accable, pour remettre les priorités en place, parce que c'est une question vraiment de priorité, revoir ses priorités, et le terme « premièrement », chercher premièrement le royaume de Dieu est vraiment important et il est essentiel dans le texte. Faites-le en priorité, le royaume de Dieu comme un projet de vie prioritaire et non pas un à côté religieux sympathique qui nous fait du bien. On est là dans le réajustement des priorités, redire son projet de vie prioritaire. Et d'ailleurs, c'est le titre de cette quatrième semaine, hein, la foi, le choix de la confiance. Un choix déterminé, un choix de vie, le choix de la foi, le choix de la confiance que l'on renouvelle. Et c'est clair que Dieu ne nous demande pas d'être insouciant, imprévoyant, ni oisif. Il sait que nous devons travailler pour nourrir, pour vivre, pour nourrir notre famille et aussi soi-même. Mais il nous appelle à vivre non pas à partir de nos inquiétudes, de nos peurs, mais à partir de notre choix de confiance, de notre choix de foi. Et puis deuxième suggestion, premier étant redire son projet de vie, fréquenter des endroits paisibles, ou j'ajouterais des endroits, des lieux de grâce, avec un G majuscule, pour éviter la pression de l'économique, du commerce, de la performance, retrouver des endroits où la gratuité est évidente, où la paix est palpable, la nature. J'étais la semaine dernière à Gréolières-les-Neiges, qui, pour une fois, méritait son nom. Il y avait 60 cm de neige fraîche, les sapins croulaient de neige. Magnifique. Et pendant tout le temps où je faisais de la randonnée, je remerciais le Seigneur, je louais le Seigneur pour le privilège d'habiter dans cette région où, à 1h15, on trouve ces endroits comme ça. Fréquenter des endroits de grâce, des endroits paisibles, la nature, les amis, mais peut-être aussi la Bible, fréquenter la Bible, un lieu de grâce, où on en parle de gratuité, on nous parle d'amour gratuit, c'est ça la grâce, d'amour et de pardon gratuit, son amour inconditionnel, cet amour infini de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ et qui nous accueille tel que nous sommes et qui nous fait participer à cette grâce. Fréquenter des lieux de grâce, qu'il n'y a rien de tel pour lutter contre l'inquiétude, rien de tel que la grâce de Dieu. Mais parfois, il faut y repasser par la Bible, par le parcours alpha, par la louange, par des moments de lecture quotidienne de la Bible, par l'Église, parce que malgré ses imperfections, et on peut en dire le long sur les imperfections de l'Église, elle reste un lieu de grâce, un havre de paix, un lieu où on parle de gratuité, où on s'aime, parfois, mais on s'aime gratuitement, on s'accueille les uns les autres. Ouais, ça vaut la peine de fréquenter l'Église, parce qu'elle est un lieu de grâce. Et puis, dernier élément dans ces suggestions, savoir lâcher prise. Parce qu'avec l'inquiétude, on a un rapport parfois ambivalent. on sent bien qu'elle ronge, mais en même temps, on y tient, notre inquiétude. Pourquoi ? Parce que notre inquiétude, avec l'inquiétude, on a l'impression de faire quelque chose. On a l'impression d'être responsable. Vous vous souvenez de... Enfin, vous avez entendu cette phrase, « Faut bien que quelqu'un s'inquiète ici, dans cette maison. » Hein ? Il faut bien. Sinon, on n'avancerait pas, semble-t-il. Une sorte de justification de l'inquiétude parce qu'elle elle nous donne de l'impression de contrôler un tout petit peu la situation. Oui, c'est un rapport ambivalent. On sait qu'elle nous ronge, mais on y tient quand même. Et j'ai lu quelque part une bonne image. On veut faire confiance en Dieu. Oui, mais d'un autre côté, on s'inquiète pour son avenir et on essaye de calculer son avenir au cas où Dieu nous abandonnerait en cours de route. Et l'image, c'était qu'on appuie en quelque sorte sur la pédale de frein en même temps que la pédale d'accélérateur. Et ça n'avance pas. Jésus nous invite à faire une démarche intérieure, mais déterminée, et qui l'on pourrait appeler le lâcher-prise. Accepter que je ne vais pas tout contrôler, mais accepter que je ne contrôle vraiment pas grand-chose. Alors, c'est pas la méthode couée, mais une décision déterminée de lâcher prise sur ses soucis, ou le lâcher prise, c'est un peu psychologique ou psychologisant comme terme, s'abandonner à Dieu, lui donner les rênes de sa vie, lui donner le volant du véhicule de sa vie, le laisser faire, s'abandonner, sachant que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Et sa volonté est que nous cherchions premièrement le royaume des cieux, et que ça c'est bon, agréable, et surtout c'est parfait, ça nous va comme un gant. Le Nouveau Testament a rebondi sur ce sermon sur la montagne avec Pierre, l'apôtre Pierre, l'impulsif, qui nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Déchargez-vous. » Dieu s'en charge, je me décharge. Et Paul nous parle du lieu où ce lâcher-prise peut s'opérer, où cet abandon peut s'opérer en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà un beau texte. On voit cet appel à ne pas s'inquiéter, à faire confiance en Dieu et à l'exprimer par la prière où on lâche prise par rapport à son inquiétude. On s'abandonne à Dieu. Je termine par deux questions pour nous tous ce matin. Deux questions pour la route, pour les 40 jours en route. Quelle est ma grande inquiétude aujourd'hui, maintenant, en ce dimanche 10 mars 2024 ? Quelle est ma grande inquiétude ? Est-ce que je peux la nommer ? Je vous invite à essayer de la nommer. Et puis, que puis-je faire cette semaine contre cette inquiétude, pour lutter contre cette inquiétude ? Et je remets les 4 suggestions. Redire son projet de vie, revoir ses priorités, fréquenter des endroits paisibles, des lieux de grâce, ou lâcher prise. Renouveler mon lâcher-prise, mon abandon entre les mains de Dieu. Je vous invite à quelques instants de réflexion. Nommez votre inquiétude. Choisissez dans ces 3 suggestions peut-être celle qui trouve en vous le plus d'écho.